Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous encore ce matin. J'ai commencé à dire bonjour à tous ceux qui nous visitent aussi. Tous ceux et celles qui sont venus pour la première fois. Soyez dans la joie de prendre ces cultes ensemble avec nous. Parce que nous sommes dans la joie de célébrer le nom du Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Amen. Nous allons, avant d'abord de prier, je vais dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a visité, j'ai entendu ce matin dans vos prières, ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Certes, il y a deux personnes qui ont dit merci au Seigneur de ce qu'il a fait tout au long de cette semaine. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons rendre et dire merci au Seigneur à tout moment. Parce que Dieu a agi aussi dans chacune de nos vies. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui accomplis des miracles dans chacune de nos vies. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous as donné la force même d'être en ces lieux ce matin. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, encore une fois, nous nous prosternons devant toi. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous t'avons adoré par nos chants, par nos bouches. Et toi, tu nous as écoutés. Et maintenant, Seigneur, nous voulons aussi t'écouter. Tu nous as donné des oreilles pour entendre, Seigneur, tes merveilles. Oui, Seigneur, notre Dieu, parle-nous. Parle à nos cœurs, Seigneur. Réveille-nous, éclaire-nous, parce que ta parole est la vérité. Nous nous courbons devant toi et nous attendons à toi. Seigneur, tu m'as donné cette grâce de parler à ton peuple. Mais ce n'est pas moi, Seigneur, qui parlera à ton peuple, parce que c'est ta parole. Je suis qu'un serviteur inutile. Mais encore une fois, Seigneur, merci. Merci d'avoir mis tes paroles dans ma bouche, afin que ton peuple puisse t'entendre ce matin. Sois loué, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de chanter un chant qui nous dit « Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer. » On peut continuer à aller plus loin, te glorifier, te psalmodier. Toi, le seul Dieu est vrai. Vous savez, l'exhortation est le cœur même, l'adoration est le cœur même de notre relation avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Il veut que ses enfants puissent être en relation avec lui. Et ça, ce n'est pas quelques jours, mais c'est tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu est un Dieu de relation. Donc l'adoration est le cœur même de notre relation avec lui. Ce matin, ce chant continue encore à nous exhorter à nous faire du bien. Nous sommes venus dire à Dieu quoi ? Seigneur, à la fin de ce chant, je suis fait pour toi. Nous sommes faits pour toi. Pour toi tout seul, ô notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'aimons, parce que lui, notre Père, il nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi lui rendre grâce et lui dire merci Seigneur, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés. Le premier. Alléluia. Mais, quand j'ai dit mais, parfois il y a des choses qui nous frappent, n'est-ce pas? C'est tous les jours. Nous entendons en sortant d'ici, et pas seulement aujourd'hui, mais nous l'entendons tous les jours, dans le métro, partout où nous nous promenons. Nous entendons cette expression populaire, une expression populaire qui nous dit quoi? Je t'adore. Adorer qui? Ou encore, j'adore ça. Adorer quoi? On se pose tant de questions. Je t'adore? Ou encore, moi, j'adore ça. Vous savez, dans toute la Bible que vous avez chacun, chacune, chez vous à la maison, dans toute la Bible, on nous parle et on nous montre que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas l'idolâtrie, surtout pour ses enfants qu'il a appelés. Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, bien-aimés, et Dieu nous a régénérés. Quelle grâce! Il nous a fait grâce, notre Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont dans l'idolâtrie sans même le savoir. Ils sont dans l'idolâtrie sans même le savoir. Dieu, comme le frère vient de le dire, c'est dans Deutéronome 4, 24, que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux, spécialement quand il s'agit d'une adoration de ses enfants. Ce matin, nous sommes venus pour lui. Nous sommes faits pour lui. Nous l'avons adoré. Nous avons élevé nos voix. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Pendant que nous sommes en train de louer Dieu, Dieu est là au milieu de nous, par son esprit. Les anges nous accompagnent dans l'adoration, dans la louange. Vous savez, adorer ou vénérer quelqu'un d'autre que le Dieu vivant et vrai, et son fils Jésus-Christ, c'est l'offenser. C'est offenser Dieu. C'est le déshonorer. Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'approuve pas ça. Alors l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie représente ce que nous mettons entre Dieu et nous. Par exemple, là, entre moi et vous, il y a ce micro. Donc, ce qui est entre Dieu et nous. Mais le principe même, le fond même de l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie consiste à adorer une idole. Ce que je mets entre Dieu et moi, ce que je mets là, c'est une idole. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, un objet, une statue, une bête, une montagne, c'est un élément de nature. Ça peut être toutes ces choses-là. Alors on peut dire que dans ces cas-là, l'idolâtrie devient une perversion. Ça devient une rébellion. Contre qui? Contre Dieu, bien-aimé. C'est une altération, un changement total de notre forme d'adoration. Au lieu d'adorer le Dieu vivant et vrai, j'adore ce qui est entre moi et lui. Nous allons lire deux textes que Dieu m'a donnés. C'est dans l'Ancien Testament. Sur ce, je vais associer les enfants bien-aimés. Ce n'est pas moi qui lira ces deux textes, ce sont les enfants qui liront ces textes. Comme vous savez, ils m'ont dit, écoute, moi je ne peux pas aller devant pour lire. Il faut comprendre les enfants. Ils veulent lire là où ils sont placés. Donc, je vais laisser d'abord par Emeric qui va lire le premier texte. Tu as ta Bible, mon petit? Tu as ta Bible. Alors, si tu es déjà préparé, tu vas lire ce beau texte dans Exode. Il va nous lire les textes dans Exode 20 à partir du verset 2 à 5. Si tu sens le courage de te mettre debout, très bien. Mais si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Ne te gêne pas. OK? Voilà, tu peux lire fort. Merci Seigneur. Vous avez tous entendu. il a plus fort. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, il y a un autre enfant qui va nous lire Deutéronome 8, de 19 à 20. C'est Sarah. Elle est où, Sarah?
Elle est là.
Merci les enfants. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Entendre cette parole de la bouche des enfants. Ces deux passages nous parlent, n'est-ce pas? Ça ne vous parle pas? On ne se pose pas des questions de ce que nous venons de lire? Nous ne nous posons pas des questions. Si nous nous posons des questions, ces deux passages nous parlent et nous montrent que la présence de Dieu bien-aimé ne pourra pas cohabiter avec les idoles. Dieu ne peut pas cohabiter avec les idoles. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est clair. Dieu, parce qu'il est clair, il ne peut pas laisser une certaine ambiguïté ou une erreur dans ses commandements. Nous venons d'entendre, nous venons d'écouter. Donc il n'y a point d'erreur, il n'y a point d'ambiguïté de ce que nous venons d'entendre. Donc ce qu'il a dit, ce qu'il nous a dit, ce que nous avons déjà lu, c'est clair et c'est juste. Mais ce qui est important pour tout enfant de Dieu, c'est quoi? C'est de vérifier si je ne suis pas dans une forme d'idolâtrie. C'est ça qui est important. J'entends, je lis, mais est-ce que je, moi-même, Adrien, je ne suis pas dans une forme d'idolâtrie? Vous savez, quand Dieu choisit un peuple, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu vous a tous appelés. Entre parenthèses, c'est dont l'Esprit de Dieu parle aujourd'hui, pour venir à lui. Il faut aussi écouter et obéir au venir à Dieu. Ça, c'est très important. Mais ce don déjà que Dieu a appelé, ce don déjà que Dieu a choisi, élu et régénéré, le Seigneur nous dit, mes enfants, mes lois et mes commandements que je vous donne ne sont pas pénibles. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Pourquoi Dieu nous donne de tels commandements? C'est pour que nous puissions savoir chacun et chacune comment être en relation avec lui, comment communier avec lui, comment vivre avec lui. Nous ne vont pas vivre n'importe comment, parce que lui, il nous donne par son esprit les directives. Ces textes tirés de l'Ancien Testament nous rappellent une histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire des enfants d'Israël. On ne peut pas résumer l'histoire aujourd'hui dans deux minutes. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit à son peuple choisi. Les enfants d'Israël, c'était un peuple choisi. Et nous savons tous qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a accompli tant de miracles pour ces peuples. Parce que Dieu a choisi ces peuples. Parce que Dieu aime ce peuple. Parce que Dieu veut accomplir des choses que l'homme ne peut pas accomplir. Et c'est ce que Dieu a fait pour ce peuple. Mais il s'est passé quelque chose qui nous touche. C'est quoi? C'est, il s'est passé, nous dit la parole de Dieu, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces temps où Moïse devait se rendre sur le mont des Sinaï pour aller parler avec qui? Avec Dieu. Parce que Moïse parlait avec Dieu comme moi je vous parle aujourd'hui. Il entendait la voix de Dieu comme vous entendez ma voix. Quelle relation entre Moïse et Dieu! Une relation d'amour, parce que Dieu est amour. Oui, pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse est allé répondre à l'appel de Dieu pour parler avec Dieu. Parce que Dieu devait lui dire des choses pour son peuple. Mais le peuple était là, impatient. Impatient. Il commençait à douter, mais Moïse est où? Il nous a abandonnés, il est parti, ça fait 40 jours, 40 nuits. Nous sommes restés tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? Le conducteur n'est pas là. Alors, ils étaient dans l'effervescence, une panique générale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés, bien-aimés, dans l'idolâtrie. Ils succombèrent à la vision païenne de l'Égypte. Satan les a fait miroiter, leur rappeler ce qui s'est passé en Égypte. Au lieu de regarder devant, ils regardaient en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons quitté l'Égypte. Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte? Pour mourir ici dans le désert? Où est Moïse? Il n'est même pas là. Pendant ce temps, Moïse parlait avec Dieu. Dieu lui parlait. Les enfants d'Israël tombèrent dans l'idolâtrie. C'est ça qui est alarmant. Parce que après avoir été témoin des miracles, vous connaissez tous en lisant, même les enfants, ils le savent. Tout ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, comment Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais ce peuple, tout cela, c'est rentré là, c'est sorti. Ils n'ont plus de mémoire, ils ont tout oublié. Tout oublié, bien-aimés. Ils avaient ce qu'on appelle une cécité spirituelle. Ils étaient complètement aveuglés par le monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors pendant ces temps que Moïse était là-bas? Ils ont dit, mais Aaron dit, mais oui, mais voici. Fabrique-nous un nouveau Dieu. Fabrique-nous un nouveau Dieu, Aaron. Parce que Moïse n'est pas là. Il ne vient plus, il ne viendra plus. Mais pourquoi devrais-je vous fabriquer un nouveau Dieu? Pour que nous puissions l'adorer. Adorer qui? C'est Dieu-là. Nous connaissons tous la suite parce que je ne peux pas aller au-delà. Mais que constatons-nous? Leur intelligence était vraiment obscurcie totalement. Nous qui avons lu cette histoire, nous qui continuons à lire cette histoire, nous qui entendons même un résumé ce matin, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. On se pose la question, mais comment c'est possible? Ce peuple qui a connu la gloire de Dieu, ce peuple qui a vu que Dieu, donc il a mis sa main toute puissante pour les délivrer de l'esclavage en Égypte. Comment ils sont tombés dans cette adoration païenne? Ce n'est pas possible. On se pose tant de questions. Où est la grâce de Dieu? Ils ont mis de côté la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. C'est incompréhensible. Ça, c'est nous, en lisant l'histoire, on se pose des questions. Simplement, ils ont péché. Ils ont péché contre le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant. Vous savez, il n'y a pas que les enfants d'Israël. Nous aussi, nous pouvons ressembler au peuple juif. Parce que la parole n'est pas seulement pour le peuple juif, mais c'est aussi pour nous. Nous pouvons aussi le ressembler d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons ressembler au peuple juif. Nous le verrons un peu plus loin. L'histoire de ces peuples nous témoigne aussi que aussi longtemps qu'ils étaient attachés à Dieu, tout allait bien. Quand ils étaient attachés à Dieu, oui Moïse, nous allons t'écouter. Oui Moïse, c'est toi, Dieu a parlé. Nous allons écouter, nous allons obéir. Et pendant qu'ils obéissaient, tout allait bien. Mais quand ils désobéissaient, ils retournaient dans le monde, dans les pensées, c'était fini. Dieu était mis de côté. Bien-aimés, ils se sont laissés corrompre. Ils se sont laissés corrompre par les choses du monde. Dieu, en opérant tant de miracles, des victoires, quand on lit l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu des victoires et des victoires, succession de victoires pour les enfants d'Israël. Ils ont acquis pas mal de richesses, les enfants d'Israël. Les autres, ils avaient des têtes comme ça, parce qu'ils ont eu pas mal de choses. Dieu leur donnait tout ce que... Ils détruisent un peuple, tout ce qui appartient à ce peuple, c'est à vous. C'est des richesses. Ils étaient riches, les enfants d'Israël. Et tout ça, ça les tournait la tête. bien-aimés. L'Ancien Testament, pour finir à ce point-là, regorge tant d'exemples. Des exemples bons, tout comme aussi des exemples mauvais. Et tous ces exemples servent d'avertissement pour nos propres vies aujourd'hui. Nous devons faire très très attention. Alors, quelle est la racine de l'idolâtrie? Vous savez, quand on met le point sur quelque chose comme l'idolâtrie, l'idolâtrie est subtile. Il se peut qu'en partageant ça avec vous, vous allez me contester, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous allez dire, mais de quoi il parle? Mais ce n'est pas comme ça, moi je pense comme ça. Je laisse tout entre les mains du Seigneur. Je partage seulement ce que Dieu m'a donné de vous communiquer et de vous dire. Bien souvent, n'oublions pas que la plus grande idole dans nos vies, c'est qui? C'est le moi. Le moi, c'est la plus grande de toutes les idoles, le moi. Le moi, c'est un esprit qui a, cet esprit qui même a animé Satan. Cet esprit qui l'a habité Satan. Dans Ésaïe 14, nous n'allons pas lire, donc 14, 12 à 15, où Satan a défié Dieu. C'est cet esprit-là, le moi, qui était, que Satan était animé. Cet esprit bien-aimé est un esprit terriblement trompeur, le moi. Pour ceux qui prennent note, Ésaïe 14, 12 à 15. Mais cet esprit-là est un esprit destructeur. Ne le minimisons pas, le moi. Il est puissant, le moi. C'est un esprit trompeur. Mais ce qui est derrière cet esprit, bien-aimé, c'est des esprits mauvais. Le moi, derrière ces esprits, se cache des esprits mauvais. Des esprits diaboliques. Des esprits maléfiques. Et ces esprits-là, leur but, c'est quoi? C'est de mentir, comme Satan lui-même. Ce sont des esprits mauvais qui vivent que du mensonge, qui nous trompent à chaque instant, qui nous séduisent à chaque instant. À l'exemple, mais toi tu es le plus fort, hein? Tu es plus baraqué toi que tous les autres. Ah, tu es plus grand. Regarde les diplômes que tu as. C'est toi le plus intelligent dans cette salle-là. Tu es le plus intelligent, tu as plus de diplômes. Ah, mais tais-toi, c'est toi qui sais bien parler. Hein? Tu sais bien parler, les autres n'arrivent même pas. Tu possèdes une belle femme. C'est ma femme. Ah, tu as un beau mari, tu as vu comment il est? Tout le monde regarde ton mari. Ou ta femme. Tu as la plus belle maison. Tu as la plus belle voiture. Tu vois, quand tu montes sur le parking, tout le monde regarde ta voiture parce que c'est la plus belle. Ça, c'est le moi. C'est le moi, bien-aimé. Alors, ici, si je veux associer le moi à l'idolâtrie, c'est pour dire simplement que c'est un esprit dangereux. Un esprit dangereux, bien-aimé. Cet esprit pousse l'homme à l'arrogance. Cet esprit pousse l'homme à la domination. C'est moi, c'est moi. Ça, c'est un esprit mauvais. Mais nous pouvons les combattre. On peut le combattre que dans l'humilité et non pas avec violence. Non pas avec moi, toi tu dis ça, moi aussi j'ai ça. Non. C'est dans l'humilité que je peux combattre, que nous pouvons combattre cet esprit. Pour aller encore plus loin, cet esprit, le moi, cache d'autres idoles et d'autres dieux. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il existe beaucoup de plaisirs dans la vie. Beaucoup. Il y a beaucoup de plaisirs dans la vie qui nous guettent. Ou encore, il y a beaucoup de biens matériels qui nous guettent. Et tous ces biens-là peuvent nous détourner d'adorer le Dieu vivant et vrai. Ça peut nous détourner facilement notre attention, prendre trop de place dans notre vie et nous empêcher de servir le Dieu vivant et vrai. Mais il y a une chose, vous allez me dire, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre que nous, ses enfants, nous puissions nous réjouir de tout ce qu'il nous donne. Vous savez, quand nous avons des problèmes, nous disons, Seigneur, pourvois à mes besoins. Dieu pourvoit. Je n'ai pas de travail, il me donne un travail. Je n'ai pas une maison, il me donne le moyen de construire une maison. Je n'ai pas ceci, Dieu me donne. Dieu n'est pas contre de nous donner. Parce qu'il veut notre bien. Parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous réjouir, notre Dieu. Mais que faisons-nous avec tout ce qu'il nous donne? Soyons très attentifs et attentives pour ne pas casser notre relation d'une manière ou d'une autre avec notre Dieu et Christ. C'est pourquoi il est important que tout enfant de Dieu puisse se rendre compte. Où suis-je? Suis-je dans une forme d'idolâtrie quelconque? Alors si cela est vrai, je dois m'y remédier. Je dois sortir de là. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons d'autres formes d'idoles qui nous séduisent encore et qui sont bien, bien, bien puissantes. Nous allons lire Galates 5, 19 à 21. À partir du 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Quelles sont ces œuvres de la chair? Il commence à énumérer ici. Il dit, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, nous dit l'apôtre, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit au travers son serviteur. N'hériteront pas les royaumes de Dieu. Donc celui qui commet de telles choses n'est pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Que pouvons-nous comprendre? Vous allez dire, mais ça c'est des péchés, bien sûr. Mais comment pourrais-je associer ça à l'idolâtrie? Voilà ce que je veux vous partager. Derrière chacune de ces œuvres charnelles, diaboliques, se cachent des esprits, encore une fois, mauvais. Des esprits mauvais, bien-aimés. Ne minimisons pas ces esprits mauvais qui se cachent derrière la débauche, derrière l'impureté. Vous savez quels sont ces esprits-là? C'est la pornographie. Derrière la débauche et l'impureté, c'est la pornographie. C'est quoi encore? C'est des blagues obscènes. C'est des conversations qui conduisent à la séduction. Je peux être là, même à l'église, je parle avec une sœur dans une conversation et pourtant je suis en train de la séduire. Eh oui, il se passe même dans les églises. Ce n'est pas seulement en dehors de l'église. Et nous avons connu tant de cas, ce n'est pas peut-être chez nous, dans d'autres églises où nous entendons tant de choses. Il n'y a pas que ça derrière la débauche et l'impureté. Il y a aussi la masturbation. Il y a aussi la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est les jeunes qui sont encore jeunes, qui ne sont pas mariés, qui vont commettre l'acte sexuel en dehors de ça. Ça, c'est la fornication. Un jeune, quelqu'un qui n'est pas marié, ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. C'est la fornication. Et ensuite, il y a l'adultère. Ou c'est lui ou celle qui est mariée va avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'adultère. Vous voyez que derrière la débauche et l'impureté se cachent tant de péchés, des esprits mauvais. C'est un esprit mauvais. Je suis animé par cet esprit et j'y vais. J'obéis à cet esprit et cet esprit devient une force qui me dépasse. Et je commets l'adultère ou la fornication ou la masturbation ou j'insulte. Derrière l'idolâtrie, faisons donc attention. Nous trouvons derrière l'idolâtrie, la magie noire. Il y a aussi ce que nous appelons la magie blanche, comme la pierre du Nord, etc. Ici, à Monaco, ça existe, c'est là. La pierre du Nord, la magie blanche. Des fétiches, l'horoscope. Vous savez, quand vous achetez les petits programmes de la télévision, derrière, là, c'est marqué horoscope. Ils vous donnent l'horoscope pour toute la semaine. Qui es-tu? Es-tu Dieu pour connaître ma vie, ce que moi je ferai demain? Qui est capable de connaître la vie? Moi, je suis incapable de connaître votre vie, bien-aimé. Seul Dieu. Alors, cet esprit de mensonge, cet esprit séducteur mauvais, veut me séduire pour que moi, je puisse croire à ce que lui, il veut me communiquer. Ce n'est pas mal en soi d'acheter un journal parisien. Mais quand vous arrivez à un point, vous tournez les pages, vous trouvez l'horoscope de la semaine ou du jour. Vous ne posez pas la question. Ou vous tombez dans les pièges en lisant l'horoscope. Personne n'a vu. Mais Dieu, on ne lève pas les yeux dans le ciel pour voir si Dieu me regarde, n'est-ce pas? Je suis comme ça. Mais dans le ciel, est-ce que Dieu me regarde? Derrière les inimitiés, derrière les querelles, les jalousies, les animosités, pardon, etc., qu'est-ce qui se cache là? C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme développe tant de choses derrière ces idolâtres. La méchanceté. Les pensées mauvaises. Je suis là, je suis en train de méditer le mal. Regarde ce qui se passe en Syrie. Avant de bombarder, qu'est-ce qui se passe? Ils ont médité, voilà ma soeur, ils ont pensé au mal. Ils ont fait des plans maléfiques pour les détruire. Je vais les détruire, je vais tuer les gens, les innocents, etc. Ça, ce sont les derrière, les querelles, les animosités, les jalousies, bien-aimés. Et derrière tout cela, il y a encore des guerres. Derrière tout cela, il y a le plaisir de voir l'autre souffrir. Je suis dans la joie de voir quelqu'un d'autre souffrir. Mais c'est diabolique, ça. Est-ce que Dieu, quand il nous regarde, il est dans la joie de nous voir souffrir? Il compatit avec nous. Quelle grâce. De voir l'autre souffrir, de voir l'autre ne pas réussir même. Manque d'amour. Derrière ces esprits maléfiques, mauvais et méchants, il y a la colère. À cette liste, on va encore aller un peu plus loin, ajouter d'autres idoles, comme l'amour de l'argent. Il y a des gens qui disent, moi j'adore l'argent. J'adore l'argent. Pourquoi tu adores l'argent? Écoutez, je travaille dans un milieu commercial. J'entends presque tous les jours. Moi, j'adore l'argent, Adrien. Ah, tu adores l'argent. Pourquoi? Une parenthèse. Parce que l'argent me donne ça. L'argent, je peux acheter une femme. L'argent, je peux faire ceci. L'argent, je peux faire cela. Vous voyez les esprits qui sont cachés derrière l'amour de l'argent? Les richesses matérielles. Dieu n'est pas contre qu'on puisse avoir une voiture. Dieu n'est pas contre que je puisse acheter un frigidaire. Les visions, etc., etc. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Que faisons-nous avec tout cela? Le pouvoir d'avoir une bonne réputation, c'est moi, toujours. Mais il y a aussi d'autres passions qui peuvent devenir des idoles auxquelles nous attachons si facilement en sacrifiant notre vie, notre santé, notre famille, notre temps. Je commence par le téléphone portable. C'est une belle invention, n'est-ce pas? Mais ça devient comme une idolâtrie, les téléphones portables. Il y en a qui changent à tout bout de champ, à son fait d'avoir de l'argent pour acheter les téléphones portables. Son téléphone fonctionne encore très bien, mais tellement que ça m'attire ça, hein? Il faut que j'aille acheter un autre portable. Ah, celui-là, il a 14 gigas, etc. Peut-être, j'exagère. Mais Dieu n'est pas contre qu'on achète un portable. C'est un moyen de communication. Je vais appeler mon frère, ma soeur, je prends mon portable, même si je suis au travail. Voilà, j'appelle mon frère. Ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient une séduction, c'est là où ça devient un péché. C'est là où ça devient dangereux, le portable. Vous savez, qu'est-ce que ça fait? Ça a coupé nos relations dans nos maisons. Aujourd'hui, j'arrive, j'ai dit, mais écoute, Jérémy, tu es où là? Je parle de mon fils, tu es où? Dans la chambre.
Quelques minutes après, je cherche, mais il est où? Il mange. Le repas est là. Et tous les jeunes, c'est comme ça. Tous les jeunes, c'est comme ça. Aucun jeune va me dire que moi, je ne le fais pas ça. Tous les jeunes le font. Et même les adultes. Hein? Et même les adultes. Je peux être là, je prends mon portable et ma femme, Adrien, viens voir. Attends, j'arrive. Facebook, je vais sur YouTube, et des tout, quoi. Ce n'est pas défendu, bien-aimé, d'aller voir, de ne pas consulter. Je ne vous le défends pas, mais je vous dis seulement attention. Attention. Ne dites pas, ne pensez pas en envers ce que je suis en train de vous dire, mais faisons très attention à cela. L'ordinateur. C'est un copain aussi formidable, l'ordinateur. Les voitures. Oh, c'est bon. Cette voiture-là, elle roule encore, mais c'est bon. Là, la publicité. Oh là, la télévision, la pub, là, elle est là. Je vis cette voiture. C'est ça que je veux. Et pourtant que l'autre roule encore bien. Et c'est un besoin? Non. C'est une convoitise seulement. Ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas un besoin. Parce que je convoite, c'est tout. Nous avons la nourriture. Il y en a qui aiment bien manger. Ce n'est pas un péché. Mais la gloutonnerie devient quoi? Un péché. Vous savez, il y a une sœur chrétienne congolaise qui a chanté. Elle chantait, disait que la semoule devient son dieu. La semoule, c'est une boule. Donc, on prend du blé, on met dans l'eau chaude, on fait une boule pour manger avec une sauce tomate, etc. La semoule devient son dieu. Vous allez me dire, mais Adrien, je ne comprends pas. Et oui, c'est vrai. Il y a des gens même qui se bagarrent. Le mari, il arrive, il dit, tu m'as fait la semoule? Ah, je n'ai pas eu le temps. Et bim. On tape. Ils commencent à se chamailler à cause de ça. Parce que l'autre n'a pas su faire à temps la semoule pour qu'il mange. Et cela est vrai. Cela est vrai. Donc, la nourriture peut aussi devenir une idole. Le sport. Les sports, la musique, le cinéma, le travail, toutes ces choses, bien-aimés, l'alcool, la drogue, même les médicaments, on devient parfois dépendant de toutes ces choses. Nous devons faire très attention. Et ces choses prennent la place entre Dieu et nous. Et lorsque nous plaçons ces choses, lorsque je place le sport, Dieu nous dit de nous entretenir, n'est-ce pas? Dieu nous dit de courir, de marcher à pied pour conserver sa forme. C'est normal. Mais quand maintenant, au lieu que je puisse lire, mais je me lève le matin, non, la parole de Dieu, c'est après. Je vais d'abord courir, je vais d'abord faire ça. Faisons attention de tous ceux qui prennent la place de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 au verset 14, fuyons l'idolâtrie sur toutes ses formes. Toutes ses formes, fuyons l'idolâtrie. Ésaïe 48, verset 8 nous dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Parce qu'il est notre Dieu. Il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Éternel. Et dans Matthieu 6, au verset 24, vous connaissez bien ces textes. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici représente, c'est vrai, on nous parle de l'argent, très bien, mais Mammon représente les richesses matérielles. Tout ce que nous venons d'énumérer, le travail, les sports, tout ça, des voitures, des maisons, ce sont des richesses matérielles. Encore une fois, Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir de l'argent parce qu'on travaille à la fin du mois, l'ouvrier mérite son salaire, mais bien-aimés, faisons donc attention. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Donc, deux maîtres, il y a Dieu et il y a Mammon. Est-ce que quelqu'un peut servir les deux ensemble? C'est incompatible. C'est pas possible de servir le Dieu, les deux ensemble. Moi, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Nombreux, nombreux les enfants de Dieu, ne parlons même pas ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, mais nombreux les enfants de Dieu, bien-aimés, sont séduits par Satan. Ils pensent que je peux servir deux maîtres à la fois. Et ils oublient qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène vers la félicité éternelle et l'autre chemin qui mène vers l'enfer, la destruction ou alors la punition éternelle, qui est, qu'on peut dire aujourd'hui, l'enfer. C'est une punition. Alors que voulons-nous choisir? On veut servir les deux maîtres pour aller là-bas, de l'autre côté, où il y a l'enfer, la punition, la dureté, la souffrance? C'est pourquoi Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne faut pas que je perde quelques forces pour aller dans l'argent ou au travail ou à autre chose. Mais que tout soit centré vers Jésus-Christ, vers Dieu. Jacques, il va encore plus loin. Jacques 1, verset 8, il nous dit, il nous parle d'un homme irrésolu. Un homme irrésolu, c'est un homme ayant un esprit partagé. C'est-à-dire qu'il a un esprit pour Dieu et un autre esprit pour le monde. Cet homme n'est pas enfant de Dieu, c'est un hypocrite. Ou cette femme est hypocrite. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Un homme irrésolu, c'est un homme inconstant. C'est un hypocrite bien-aimé. C'est un païen. C'est un homme qui, occasionnellement, il croit en Dieu. Et quand ça tourne mal, il cherche maintenant ses propres solutions. À ce moment-là, qu'est-ce qui revient? C'est le moi qui revient en lui. Donc toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux. Dieu ne peut rien faire pour toi. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les esprits mauvais qui sont cachés derrière poussent l'homme, au lieu d'aller vers Dieu, c'est d'aller vers lui-même. Donc moi, je peux faire ça. Donc, il t'oriente vers la tricherie, il t'oriente vers le vol, il t'oriente vers tant de choses. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes irrésolus. Nous ne laissons pas distraire par des idoles. Bien que l'homme est essentiellement matériel dans ses pensées, mais ne nous laissons pas, bien aimés, séduire par des idoles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit clairement que cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses, vous seront données par-dessus tout. Que cherchons-nous d'abord? C'est les choses d'en haut, n'est-ce pas? N'oublions pas une chose, que la malédiction repose encore aujourd'hui sur l'idolâtrie. Ça repose encore aujourd'hui. Et ceux qui tombent dans le piège de l'idolâtrie, sous une forme quelconque, bien-aimé, encore une fois, n'hériteront point les royaumes de Dieu. Jetons un œil derrière nous, la semaine qui vient de passer pour chacun et chacune. Posons-nous la question, où était l'ensemble de mes pensées? Où était l'ensemble de nos pensées? Mes pensées étaient préoccupées de quoi? J'étais rempli de quoi? Si, comme nous venons de le chanter ce matin, nous sommes faits pour toi, Seigneur, si nous avons chacun de nous les désirs sincères et purs de servir le Dieu vivant et vrai, alors menons chacun, chacune aussi, ce combat pour que nos pensées ne soient pas vagabondes, qu'ils ne puissent pas baloter à gauche et à droite. Vous savez, en préparant, le matin quand je lisais, Dieu m'a rappelé quelque chose qui s'est passé il y a 35 ans ou 40 ans à peu près. J'étais encore jeune, j'ai sorti du lycée. Il y avait un monsieur qui marchait devant moi. Le monsieur était là. Bien-aimé, ça m'a touché moi-même, mais bon, j'étais encore jeune, je n'étais pas converti à l'époque. Le monsieur, il disait, que dois-je faire pour avoir une pharmacie? Ses pensées, ça tournait dans la tête. Après, lui-même, il répond, moi, je marchais derrière, j'étais seul. Et puis, il dit, je dois tout faire, quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, il faut que je puisse avoir une pharmacie. je dois tout faire, moi. Pas Dieu, mais lui, il doit tout faire pour avoir une pharmacie, d'une façon ou d'une autre. Et puis moi, j'ai dit, mais celui-là, il n'est pas bien dans la tête. Et puis bon, ben, il s'est éloigné, moi, je suis arrivé. Et ce matin, en pensant à ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais il avait des pensées qui étaient ballottées de gauche à droite. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que imagine que cet homme qui dit, moi, je dois avoir une pharmacie, et quand il passe devant une pharmacie, il dit, ah, si j'avais ça, si je pouvais avoir ça, j'allais faire ceci, j'allais mettre les comptoirs là-bas, j'allais accueillir des gens comme ça, le moi et le moi. Donc, bien-aimés, faisons donc attention que nos pensées ne soient pas vagabondes, que nos pensées ne soient pas ballottées par des événements au quotidien, les événements de tous les jours. Mais avoir des pensées dirigées par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire attachées, fondées et enracinées en Christ. N'oublions pas que notre espérance, et nous arrivons à la fin, que notre espérance est la vie éternelle avec le Père et le Fils. Si nos yeux sont vraiment ouverts, si nos yeux voient clairement, il nous a été prêché ici dans Romains 12, verset 1, verset 2, les semaines passées. Nous devons avoir une intelligence bien éclairée. Une intelligence bien renouvelée. Nous devons avoir un discernement, chacun de nous. Et nous poser la question, mais Seigneur, ma vie, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, est-ce que Seigneur, je te plais? Ma façon de plaire, ça te plaît, papa? Ma façon de penser, est-ce que ça te plaît? De regarder, de voir, de faire, ça te plaît, papa? Et si maintenant, tout plaise à Dieu, bien-aimé, nous verrons les difficultés de la vie, les souffrances, nous allons dire que peu importe que cela arrive, je sais que Dieu est là. Comme une des sœurs a dit ce matin, Seigneur, tu étais là. Dans la souffrance, tu étais là. Tu as fait quelque chose miraculeuse pour moi. Dieu agit dans nos vies. Faisons donc attention. Ne perdez pas notre temps d'aller chaque fois consulter les idoles, prendre les idoles et mettre devant nous, entre Dieu et nous, et devenir esclave de ces idoles d'une façon ou d'une autre. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous débarrasse de toutes ces choses devant nos yeux. Et alors, nous pouvons dire comme Dieu lui-même, le Maître, il nous a dit dans Jean 18, verset 36, que mon royaume n'est pas de ce monde. Si aujourd'hui je plais à Dieu, si j'ai vu comme Dieu le veut, donc mon royaume n'est plus de ce monde. Et pour finir, encore une fois, je répète, c'est que l'apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 5, au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ils nous séduisent, ils sont puissantes et ils nous trompent. Ils nous trompent. Faisons donc attention. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin et que chacun puisse se rappeler de ces textes, de lire ces textes. Tu sais, Dieu parle différemment. Nous pouvons tomber dans une idolâtrie quelconque, sous une forme quelconque, et que chacun puisse être vigilant, que Dieu puisse vraiment intervenir dans chacune de nos vies. Parce que nous sommes là pour l'adorer et glorifier le Dieu vivant et vrai. Amen.